Snoopy. Entre autres. Plongez-vous dans un monde où tous vos rêves seront permis.
La nuit.
Comme si. Tous les vendredis soirs à partir de 23h.
Et ça, ce n'est pas de la fiction. France Inter.
La différence.
15h et bientôt 4 minutes sur France Inter. Là-bas, si j'y suis, avec Daniel Mermet.
Je voudrais dire aux gens d'aller manifester jeudi. Si vous ne faites pas cet effort, croyez-moi, l'UMP et le gouvernement n'hésiteront pas à faire leur réforme injuste pour les plus petits d'entre nous. Demandez à vos députés, sénateurs, ministres, qui appartiennent ou non à la majorité, ce qu'ils toucheront à leur retraite pour avoir exercé un seul mandat. Rien à voir avec vous, les gens. Allez manifester pour garder le peu de vos avances sociales. Merci, Daniel.
Comment faire pour défendre les retraites avec un syndicat qui a déjà depuis longtemps donné tous les gages à ce gouvernement, pour ne pas le nommer la CFDT, qui dans ses textes de préparation à son congrès sont quasiment un copier-coller du projet d'orientation du gouvernement. Comment combattre les retraites avec ces gens-là, comme avec Martine Aubry ou Strauss-Kahn, qui disent ouvertement que bah oui, il faudra accepter de reculer l'âge des retraites, etc., etc. On sait très bien que cette réforme des retraites, c'est un signe donné par le gouvernement aux agences de notation pour montrer le sérieux du gouvernement français et qui veut vraiment liquider tous les acquis sociaux.
Je voulais juste dire que j'ai beaucoup aimé le reportage hier que vous avez fait avec une journaliste étudiante concernant les mineurs marocains. Franchement, je ne connaissais pas cette histoire, donc j'ai apprécié, et d'un autre côté, ça m'a montré quand même comment la France, enfin, je ne sais pas, comment la France voit les choses. Bref, c'est très représentatif.
Je suis très ravi d'avoir écouté votre émission aujourd'hui concernant les Marocains, les mineurs, avec beaucoup d'émotion, parce que je connais un peu cette histoire. Mais vous venez, avec cette émission, de soigner ouvert la plaie de l'histoire de l'émigration, chapitre ex-charbonnage de France, qui est devenu l'ouvrière du bassin du Nord-Pas-de-Calais, que je connais un petit peu, et ce monsieur Viala. Pour résumer, ce procès, c'est, on peut dire que c'est du racisme de l'État. Et voilà, ben merci beaucoup. Cette histoire, je la suis de très près parce que je suis marocain et migrant moi-même et français par décret. Voilà, bon bravo Daniel et toute l'équipe de là-bas si je suis.
J'ai suivi l'émission d'aujourd'hui sur notamment le mineur qui venait d'un autre pays, qui avait été amené en France, etc. Et j'ai connu pratiquement la même histoire. C'était sur le reportage sur les journalistes. J'ai été adopté à 3 ans à Créteil par des gens, quoi. J'ai eu des problèmes de santé, ils sont passés en parents nausées. J'ai donc porté leur nom, j'ai été mis en centre à Montesson vers 9 ans et demi. J'ai appris que Roux ne devait pas être bien mon nom, j'avais demandé au niveau de l'essence publique. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas, etc. Et puis je me suis trouvé dans un centre à Funay au Mans, et le surveillant général a appelé un monsieur Polman. Alors moi, je m'appelais Roux, donc j'attendais. Mais comme j'avais un petit peu entendu parler, je restais au milieu de la cour, bah, j'ai dit, c'est peut-être moi qui s'appelle Polman. Il me dit, bah, si on ne sait même pas comment on s'appelle. Et puis bon, j'ai appris mon lieu de conseil, de naissance à mon conseil de révision. En fin de compte, c'est là que j'ai appris que j'étais né à Spire, en Allemagne. Et puis ensuite, ma femme a voulu qu'on fasse des recherches auprès de la Croix-Rouge. Moi, je n'avais pas voulu parce que je ne voulais pas qu'on foute le bordel dans une famille éventuelle. Et bon, c'est des gens qui nous ont conseillé, après, de passer par la Croix-Rouge, que ça resterait secret. Et donc, ce qu'on a fait, et ma femme, donc, a écrit la lettre, et puis ensuite, je me suis trouvé avoir une réponse en allemand de ma mère. Et en fait, j'avais été abandonné parce qu'elle avait été jetée par sa famille du fait que j'étais le deuxième enfant, mon frère aîné étant polonais, moi étant d'un père français qui était prisonnier là-bas. Et puis on a fait connaissance et tout, j'ai connu mes frères et sœurs, donc ça avait été caché par la science publique et j'ai eu la chance d'avoir une rencontre formidable et ma mère qui était heureuse comme c'était pas possible, moi pour un mot d'allemand, elle pour un mot français, mais ça n'empêchait pas le sentiment. Et puis ben, elle est décédée, etc. Tout ça c'est la vie. Allez, au revoir et bonne continuation à l'émission. Salut.
Nous nous retrouverons demain à Chaland à 20h. au café La Pitchouli. Avis à tous ceux qui ont regardé sur le site, il y a une petite erreur, c'est bien le dernier mercredi du mois, à 20h, à La Pitchouli. Au revoir.
Voilà, il fallait quand même que ce soit précisé. Merci pour l'histoire de ce monsieur qui s'appelait Roux et qui a découvert que sa maman était allemande. Il s'appelle Monsieur Mann aujourd'hui, mais il n'a pas laissé ses coordonnées. Ça nous plairait bien de les avoir pour entrer en contact parce que c'est une histoire superbe. Merci pour tous ces messages, chers AMG, qui vous préparez bien sûr à la journée d'action de d'après-demain. Pour la défense des retraites, et ça nous donne l'occasion de vous donner une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que, vous le savez, Noam Chomsky est ce week-end à Paris, ce week-end prochain à Paris, à l'invitation du Collège de France. Il donnera au Collège de France une conférence vendredi, également au CNRS sur la linguistique, et puis samedi après-midi à 16h, invité par le monde diplomatique, il donnera une conférence suivie d'un débat au théâtre de la Mutualité à Paris. Mais hélas, c'est complet partout. Il y aura très extrêmement difficile de rentrer au Collège de France. Aussi, là-bas, si j'y suis, à penser à vous et à organiser, nous avons organisé un certain nombre de séances de projection de notre film Chomsky et compagnie. Et il y aura une séance le jeudi 27 mai à 19h50 à Paris à l'espace Saint-Michel, le vendredi 28 mai à 18h et à 21h de séance donc au cinéma L'Entrepôt à Paris, lundi 31 mai à 19h15 à la salle Gendarme, 17 rue Léopold Bellan dans le deuxième arrondissement de Paris. Et il y aura d'autres séances, 1er juin à 20h30 au Parnassien, à Paris dans le 14e, le 2 juin au studio 28 dans le 18e arrondissement à 21h et le 8 juin à 20h à Poissy dans les Yvelines. Alors, ceux qui n'habitent pas Paris sont en train de dire « Ah ouais, c'est toujours les Parisiens, Paris go tête de veau ». C'est vrai, vous avez raison, mais voilà, c'est tout ce que nous avons pu faire. On a fait quand même autre chose. On s'est aperçu, nous qui nous intéressons au travail aux interventions de Noam Chomsky depuis pas mal de temps, que bien sûr, on connaît sa révolution de la linguistique, on connaît ses interventions sur la critique de la politique extérieure des États-Unis, sur le langage, sur la manipulation de l'opinion, sur le Proche-Orient, etc. Mais on s'est aperçu que Noam Chomsky s'intéressait aussi beaucoup au syndicalisme. Et c'est un aspect de ses préoccupations beaucoup moins connu. Aussi avons-nous eu l'idée de faire une rencontre, d'organiser une rencontre entre Noam Chomsky et un certain nombre de syndicalistes français. Et ça se passera, alors tenez-vous bien, dimanche soir à 20h à la Maison des Métallos à Paris. Enregistrement public donc de cette rencontre et de cette émission à 20h à la Maison des Métallos à Paris. L'entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Dans la limite des places disponibles, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, tentez votre chance et vous devez réserver votre place à la Maison des Métallos, dont le numéro est, notez, 01 47 00 25 20. 01 47 00 25 20. Voilà, vous êtes les premiers à le savoir. Alors, tout ça nous donne l'occasion de, puisqu'on va parler du syndicalisme, où en est le syndicalisme aujourd'hui, dans la situation présente, quelles sont les forces du syndicalisme aujourd'hui compte tenu de la destruction du tissu industriel, les critiques qui sont faites au syndicalisme, quelle force, quelle perspective, quelle défense, etc. C'est autant de sujets évidemment cruciaux et primordiaux aujourd'hui. Aussi allons-nous retrouver Agathe. Agathe, on l'avait rencontrée il y a 2 ans avec Pascal Pascariello, et c'est une syndicaliste qui était en lutte actuellement à ce moment-là avec PSA. Vous connaissez cette entreprise d'Aulnay-sous-Bois qui était dans une lutte très offensive à ce moment-là. On va pas revenir sur la lutte elle-même, mais sur une syndicaliste qui sont ces gens-là? Pourquoi est-ce que ces gens-là, entre guillemets, s'engagent, luttent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui les fait courir? Et puis, qu'est-ce que ça représente dans leur vie comme sacrifice, comme choix, et aussi comme épanouissement, et aussi comme émancipation? Donc aujourd'hui, Agathe, un portrait de Pascal Pascariello. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Avis à tous les AMG de Boulogne-sur-Mer et environ, le prochain Café Repère de Boulogne aura lieu ce jeudi 27 mai à partir de 18h au Café Le Tôt ou Tard. À l'occasion de ce café, nous traiterons des services publics, ou plutôt de leur fin, avec toutes les réformes qui petit à petit font disparaître les services publics en France. Donc rejoignez-nous nombreux jeudi 27 mai à partir de 18h au Café Repère à Boulogne-sur-Mer.
Bonjour, itinéraire de la marche nationale de Paris-Nice des sans-papiers dans les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui 25, étape à Salon de Provence. Demain 26 mai, 26 mai, étape Salon de Provence Vitrolles. Avec une pause 13h à la Phare des Oliviers pour un pique-nique solidaire. Arrivée Vitrolles 18h, parking Décathlon. Déplacement dans la ville pour un rendez-vous apéro solidaire à 19h, maison de quartier Poucas. Jeudi 27, étape Vitrolles Marseille avec présence des marcheurs en manifestation 10h30 au Vieux-Port. Vendredi 28, étape Marseille, Aix-en-Provence. Plus de renseignements au 06 30 41 40 35. Merci.
Bonjour, je lance un SOS pour le lycée en détresse. Professeurs, parents, élèves, je vous donne rendez-vous mercredi 26 mai à 13h sur le parvis de la Défense. Venez vous informer sur la réforme qui s'appliquera à la rentrée 2010 dans les lycées français. Réforme qui s'appliquera dans l'indifférence générale, alors que c'est un véritable sabordage du lycée. Comment habiller des économies budgétaires avec des objectifs tout à fait louables? C'est l'exercice que le gouvernement fait en ce moment, en nous vendant une réforme 100% mensongère. L'accompagnement personnalisé avec 16 000 postes de moins et des professeurs mieux formés sans formation professionnelle, vous y croyez, vous? Nous, non. Alors rejoignez-nous sur le parvis de la Défense, mercredi à 13h, pour en savoir plus.
Le Conseil national de la Résistance élaborait dès 1943 les principes d'une société basée sur la solidarité. En 1945, la sécurité sociale, la retraite par répartition, la nationalisation des besoins vitaux de l'économie, la séparation de la presse et des pouvoirs furent mis en place progressivement. Robert Mencherini reviendra longuement sur cette période essentielle de notre histoire sociale lors du Café Repère de Marseille qui se déroulera le mercredi 26 mai à 19h30 à l'Équitable Café qui est situé au 54 cours Julien à Marseille.
C'est vraiment un monde, quoi. Entre la chaîne et tous les autres boulots, c'est ce qui est le plus dur, la chaîne. C'est le fait de se lever à 5 heures, de ne pas pouvoir bouger de son poste. Le cerveau, il est encore sur l'oreiller, et puis le corps, il est là à faire des gestes complètement débiles. Le boulot à la chaîne, c'est ça.
Ça fait plus qu'une heure qu'on est au siège central de PSA Peugeot Citroën. On est sous la pluie, on a faim, ils sont en train de manger, ils nous bloquent les portes, ils ne parlent même pas avec nous, ils ne nous adressent même pas les paroles, on dirait des chiens, ils ne sont même pas capables de négocier avec les ouvriers.
Voilà, et puis on dit haut et fort que la force des travailleurs, c'est la grève.
La force des travailleurs,
c'est la grève.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Pascal Pascariello. Un jour dans la vie d'Agathe en grève. Alors aujourd'hui, on va rendre hommage au malgré tout, ou plutôt à une malgré tout, Agathe. Elle avait laissé un message sur le répondeur, Agathe, au sujet de la grève PSA, Peugeot Citroën, à Aulnay-sous-Bois, dans le 9-3. Et pour une fois, c'était pas une grève défensive, une grève pour les indemnes ou pour un baroud d'honneur, non. Une grève avec revendication pour améliorer l'ordinaire, 300 euros par mois, embaucher les intérimaires, etc., etc. Et on a choisi, avec Pascal Pascariello, un jour, dans la vie d'Agathe, en grève.
Are you ready?
Tu veux du café au lait?
Oh, je veux bien. Et Agathe, vous buvez quoi le matin?
C'est vrai, on va pas se tutoyer de la journée.
Faut qu'on puisse on se tutoie, hein, Agathe.
Moi, j'aime mieux, moi, parce que... Moi, je fais du café avec du café au lait.
Merci.
Je parle doucement, sinon mes gamines vont se réveiller.
Tu me disais, on parle doucement, là, parce que tes petites filles, elles peuvent se réveiller. Elles ont quel âge, tes petites filles?
Mais la grande, elle a 7 ans et demi, et puis la petite, elle va avoir 4 ans bientôt.
Tu as quel âge?
40. Je les ai eu tard, parce que je me disais, l'état du monde, c'est pas terrible, quoi, là. Bon.
Il est quelle heure, là, Agathe?
Il est 5h15.
Et tout le monde dort?
Tout le monde dort encore, on va manger.
Tu te lèves tous les matins à 5h?
5h, ouais. J'essaye de grignoter 5 minutes, alors jamais 5h05, c'est psychologique, parce que... en fait, bon, après je cours pour manger, pour m'habiller, tout ça. Faut chronométrer le temps. On commence à 6h46. Donc je pars à 5h30 et je prends le métro. Et puis après, je prends le bus jusqu'à l'usine. C'est un bus spécial.
C'est quelle usine?
C'est Citroën Aulnay. Là, Aulnay se voit. Mais là, bon, comme c'est la grève, j'y vais en voiture. Ça me laisse un peu plus de temps. Bon, voilà, alors les tartines.
Donc c'est le petit déjeuner d'Agathe tous les matins. Merci.
Une tartine avec du beurre et puis une petite tartine avec de la confiture. Excuse-moi,
je t'en prie.
Dans le noir,
non, mais c'est...
Dans le noir, dans la pénombre.
Ça permet de continuer doucement la nuit. Ça fait longtemps que tu habites ici, dans ce pavillon à Villejuif.
À Villejuif, oui, ça fait longtemps, puisque quand j'étais petite, ma mère a déménagé. Donc elle habite la maison à côté. Bon, c'est un vieux truc, c'est pas très... C'est un peu humide, il y a beaucoup de travaux à faire. C'est une grande maison coupée en quatre pour quatre familles, quoi. Et puis on a chacun un petit bout de jardin. J'ai reçu une belle lettre de sanction, enfin d'appel à sanction, parce que j'ai fait la grève.
Donc Peugeot Citroën, t'as écrit?
Alors, lettre recommandée, donc. Nous avons eu connaissance de faits d'une particulière gravité dont vous êtes l'auteur. Vers 10h30, au sein de l'atelier de formation montage, avec M. Evrad et Nasri, vous avez interrompu les cours de formation en salle C2 et C3 pendant plusieurs dizaines de minutes pour inciter les personnes en formation à rejoindre le mouvement de grève. Ben oui, il y a de quoi être fier de ça quand même. Par ces comportements abusifs, vous avez porté atteinte à l'intégrité physique et morale d'autres salariés et entraver le flux de production. Waouh ! Une telle attitude n'est pas tolérable et pourrait faire l'objet d'une procédure disciplinaire à votre encontre. Et c'est signé Canaguier, le responsable des relations sociales. Parce que c'est du social, Citroën fait du social.
Et tu as tes lunettes?
Voilà, j'ai mes lunettes. J'ai encore jamais eu d'avertissement, mais à chaque fois qu'il y a des petits débrayages, ils nous font chier comme ça. C'est la pression quotidienne du militant CGT à l'usine. C'est la guerre, hein, c'est ça, c'est la guerre du patron et des ouvriers. Oui, j'ai fait mon boulot, puis eux, ils font le leur, le boulot de répression, le boulot de garde-chiourme. Puis la chiourme, des fois, elle se révolte. Donc nous, on est la chiourme sur la galère, et puis... parce que, je prends cette image parce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire « l'usine va fermer, ça va pas bien, l'automobile, on est tous dans le même bateau, etc. » Sauf que le bateau, en fait, c'est une galère. Et puis nous, c'est nous qui ramons, et puis c'est eux qui sont dans les appartements des officiers, quoi. Voilà, moi, je vois un peu ça comme ça. Moi, je veux bien discipliner si c'est pour le bien-être de tous, mais là, en fait, ils organisent pas le monde pour le bien-être de tous. Alors après, bon, une fois qu'on a fait ce constat-là, ben, on essaye, nous, de se regrouper, être plus forts ensemble, bon, de relever la tête. Bon. En fait, je travaille depuis longtemps, quand même. j'ai bien profité de ma jeunesse, quand même, mais bon... Non, j'ai toujours fait des petits boulots, des petits machins, pour pas dépendre de ma mère, parce qu'elle a pas beaucoup d'argent non plus. Elle a divorcé. Bon, ça vient de là un peu toutes mes idées, peut-être, de révolte. Ma grand-mère avait divorcé en Bretagne, c'était déjà un exploit, quoi. Après, ma mère, dans les années 70, elle a divorcé aussi.
Et tes parents faisaient quoi?
Mon père, je sais pas trop, je l'ai pas connu. Et puis ma mère, elle était secrétaire. Donc voilà, donc ma mère, elle a élevé ses trois gosses toute seule. Donc elle était roulée pas sur l'or. Donc voilà, chacun, on a essayé de subvenir à nos besoins quand même. Donc j'ai fait des petits boulots. Et puis après j'ai été embauchée à Citroën. Oh, j'ai fait plein de choses, hein, beaucoup d'intérim aussi.
Ça fait quoi? Ça fait 10 ans que tu travailles pour l'usine PSA?
Je suis arrivée en 96. Tous les jours, enfin, on apprend à connaître les gens, on tisse des liens en partageant la même peine, parce que le boulot est dur. Hein. Et alors avec les gens proches, hein, après, les gens qui sont autour, dans les autres ateliers, on les connaît moins. Et c'est ça qui est fabuleux dans la grève, c'est que du coup, tout le monde commence à se connaître. On essaye de se réapproprier notre dignité, notre vie à nous, quoi. C'est surtout ça. Hein. On dit non à toujours plus de vitesse de chaîne, toujours plus d'arrogance de la hiérarchie. C'est dire non à ça, se mettre droit, se mettre debout et puis vivre dignement, quoi. Bon, voilà, c'est ça la grève. Oh, on arrive à l'usine.
Toi là, donc tu as un salaire de combien?
Alors moi, j'ai un salaire de 1167 euros. Toujours 1167 euros. Ah, ça c'est la chef, c'est pour ça que je te cachais ton micro aussi.
Qu'est-ce qui s'est passé là, Agathe?
J'ai vu, on arrive au parking là, et puis j'ai vu un chef que je connais et qui me connaît, et s'il me voit avec un micro devant là, il va se douter de quelque chose. Donc, ils m'ont trouvé un poste au magasin où je travaille aujourd'hui. Alors, c'est le magasin des frais généraux qui s'occupe de tout ce qui est les outils, les pièces de rechange, tout ce qui est en dehors de la fabrication. Et depuis, je travaille là. C'est vraiment un monde, quoi, entre la chaîne et tous les autres boulots. C'est franchement, c'est ce qui est le plus dur, la chaîne. C'est le fait d'être coincé à une machine, le fait de se lever à 5 heures, de pas pouvoir bouger de son poste. Je me souviens quand je bossais au ferrage, la chaîne. C'est pas que le boulot était très très dur en soi, mais être devant sa machine comme ça, et puis il y a tout le corps qui refuse d'être là, on a encore le cerveau, il est encore sur l'oreiller, et puis le corps, il est là à faire des gestes complètement débiles, c'est anti-nature, enfin je sais pas comment expliquer les choses, mais vraiment, il y a des jours où le corps se révolte, et on sent vraiment à l'intérieur de sa tête, ou je sais pas, à l'intérieur de ses muscles, une bagarre, quoi, entre les deux, le fait d'être là pour bosser, puis le fait d'avoir envie d'être sur son lit en train de dormir. Le boulot à la chaîne, c'est ça.
Agathe, c'est avec elle qu'on passe cette journée, une journée un peu particulière, bien qu'ordinaire en même temps, dans la vie de cette ouvrière de PSA à Aulnay-sous-Bois. La vie ordinaire, c'est tous les jours que ça recommence. Et puis, le lendemain, lendemain sera toujours le lendemain. Mais là, c'est quand même une journée extraordinaire parce que c'est la grève, c'est la lutte, c'est le combat avec tout ce qu'il faut de courage, de dignité face à c'est la terreur et la domination. Et, enfin, on connaît bien sûr tout cela. Sauf que quand même, des luttes comme celle-là, des luttes offensives, on en entend moins parler. C'est pas du tout qu'elles n'existent plus, ces luttes-là. Mais on en entend moins parler. Tout comme ce monde dans lequel nous sommes, celui des ouvriers, finalement, dont on n'entend plus parler qu'une journée particulière dans la vie d'Agathe en grève.
C'est exactement ce que Olivier a dit.
Là, on est dans l'usine, on fait la distribution de tracts. Ben, voilà, on est au courant qu'on va à la Grande Armée aujourd'hui.
Et la Grande Armée, c'est quoi?
La Grande Armée, c'est la... le siège de PSA. La revendication principale, c'est obtenir 300 euros d'augmentation. La deuxième, c'est l'embauche des intérimaires. Et notre troisième revendication principale, c'est le départ des anciens en pré-retraite.
Salut. Bonjour.
Bonjour.
Un autre gréviste. Pour une fois, c'est offensif, alors que d'habitude, on se bagarre plutôt pour se défendre, pour limiter les dégâts.
J'ai une femme à montrer l'exemple comme ça. C'est bien, mais il n'y a pas beaucoup de femmes, mais c'est un peu normal. Tu vois, des femmes, ils ont des beaux processus, ils ne bougent pas, c'est un peu normal.
Et ça fait combien de temps que vous connaissez Agathe?
Ça fait 2 ans que je la connais. Si les femmes sont comme ça, on aurait déjà gagné ici. Il y a beaucoup de femmes qui font pas grave, c'est dommage.
Ou si tous les hommes étaient comme Agathe aussi?
On aurait gagné un jour.
On va peut-être y arriver,
hein,
parce qu'il y a la sonnerie qui a sonné, donc on fait le rassemblement voilà, dans l'atelier.
Camarade, bonjour.
Camarade.
Agathe, ça y est, le micro marche?
Ben, on dirait, mais bon, ça n'a pas l'air très efficace, ça fait beaucoup d'écho. Moi, je me pose pas trop le problème en termes de féminin ou masculin. Après, c'est sûr, les gars, ils sont sympas avec moi, mais je pense pas que c'est parce que je suis une fille, je pense que c'est parce que je suis militante syndicale, c'est ça qui facilite. Bon, on va écouter l'Assemblée. Là, c'est l'Assemblée du matin où on décide, enfin, où on explique ce qui s'est passé la veille. Donc on écoute, on fait du bruit, on fait chier un peu les chefs.
Voilà. Ceux qui ont été à Paris là.
Voilà, alors, donc on a été reçu par une adjointe au maire de Delanoë. Bon, ceci dit, on lui a quand même bien expliqué en long, en large pourquoi on était en grève et ce qu'on attendait comme soutien de Delanoë. Au moins qu'il se prononce sur les salaires qu'on a ici, quoi, et pour dire que c'était pas suffisant. Donc voilà, à part ça, elle nous a dit qu'il fallait attendre la réponse de Delanoë.
Donc là, je vais vous demander la question habituelle, rituelle de tous les matins. Qui est pour continuer la grève? Voilà, donc, et après, on fait le comité de grève d'ici 10 minutes, tout de suite dans la foulée.
Les camarades, s'il vous plaît. Il faudrait que les chaises s'avancent un petit peu, que vous glissiez vers le fond pour que ceux qui entrent puissent entrer tranquillement. Bon, on va passer au coin des mairies. Vous pouvez demander aux copains des villes d'à côté qui ont eu de l'aide de vous aider. Il faut s'organiser pour y aller ensemble. C'est comme ça qu'on a du poids, c'est comme ça qu'on avance.
Le travail par rapport aux mairies, c'est très important. Parce que c'est ce qui contribue à populariser notre grève et à poser le problème politique. Les problèmes politiques, quand je dis problèmes politiques, c'est pas qu'on fait de la politique, c'est parce que notre grève, elle pose tous ces problèmes-là. C'est une arme assez importante dans notre grève. Hein.
On a été à la couronne. Excuse-moi, la mairie a donné 360 euros par gréviste. Les services sociaux, ils disent, on ne veut pas vous voir.
C'est pas le service social qu'on s'adresse. Même si après, on va peut-être passer par le service social pour avoir les aides, en tous les cas, c'est les élus. Hein. Alors, celle qui te répond, la grève, c'est un choix. Oui, d'accord, c'est un choix. Il y en a qui font grève, il y en a qui ne font pas grève. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que justement, si nous, on est en grève, les ouvriers, c'est parce que on a compris que si on ne faisait pas nous-mêmes, eh ben, il n'y a personne qui fera notre place. Les ouvriers, maintenant, ils n'ont plus le choix. C'est ça le problème. Et si les pouvoirs publics, ils avaient fait leur travail, moi, mon travail, c'est de construire des voitures. Bon, votre travail, c'est de régler les problèmes de la société. Vous avez pris les responsabilités pour régler les problèmes de la société. Il n'y a rien qui est réglé. Et moi, en plus de mon travail de construire les voitures, je suis obligé de faire le vôtre. Et en plus, je risque de ne pas avoir de salaire, d'être expulsé, etc. Alors oui, je veux un soutien. Un soutien à cette grève, et je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de cette grève. Où vous êtes? De quel côté vous êtes? Qui vous soutenez? C'est quoi vos idées là-dedans? Et juste pour terminer, la grève, ça se mesure. Est-ce que on a eu raison de faire grève? Est-ce qu'on n'a pas eu raison? Est-ce qu'on a eu tort? Est-ce que c'est une victoire? Est-ce que c'est une petite victoire? Est-ce que c'est une grande victoire? Bon. La grève, ça se juge à ce que nous, on a été capable de faire. Il y a deux choses. Ce que le patron, il va donner, ça, c'est une manière de juger notre grève. Et l'autre manière de juger notre grève, c'est ce que nous, on a été capable de faire. Et moi, je peux vous dire que la grève qu'on a fait depuis, on est dans la cinquième semaine, elle est gagnée du point de vue de ce que nous, on a réussi à faire. Hein, et qu'on leur montre que des ouvriers, voilà, souvent on dit les ouvriers, ils sont pas capables de ci, ils sont pas capables de ça, ils ont pas de diplôme, ils savent pas lire, ils savent pas écrire, ils sont juste bons à serrer les vis, etc. Regardez, on est pourtant pas très très nombreux, mais déjà à 400 à s'organiser, regardez tout ce qu'on était capable de faire. Bon, et ça, c'est un succès de la grève, que déjà, d'accord, ils peuvent pas nous retirer, qu'il faut conserver. Ouais.
Non, j'ai vu une affiche qui m'a énervée. D'un côté, une affiche de cinéma pour je sais pas quel film où tu vois des filles en maillot de bain, des blondasses. Et de l'autre côté, la une d'un magazine où tu vois une femme voilée, quoi. Tu te dis, il n'y a pas de milieu. Soit la pétasse, soit la femme voilée, quoi. Un peu déprimant.
Qu'est-ce que tu aurais vu comme avis du milieu ?
Comme affiche au milieu, je suis pas une femme comme moi. Voilà, qui s'en fout des vêtements, mais qui n'est pas prête à se soumettre.
C'est un jean, une veste en cuir, un pull.
Ben voilà, c'est tout, une écharpe comme tout le monde, quoi.
Oui, mais un joli pendentif quand même, il y a
non,
des efforts.
Non, c'est les filles qui m'ont fait mon petit collier pour accrocher mon téléphone. Autrement nature, comme tout le monde, quoi.
On va partir d'ici pour descendre les champs.
Voilà, non, mais c'est pas très loin.
De l'Arc de Triomphe.
Je sais pas si on va faire le tour de l'Arc de Triomphe. Voilà, et puis on dit haut et fort que la force des travailleurs, c'est la grève.
La force des travailleurs,
c'est la grève. Les Champs-Élysées et on est je sais pas à quel croisement de rue, on descend doucement parce que c'est pas très loin le siège de PSA.
PSA va payer, 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 PSA va payer.
Vous m'expliquez où on se trouve exactement? Vous
pouvez
m'expliquer là, qu'est-ce qui se passe? On est où? On est devant
une grille? On est devant le QG de PSA Peugeot Citroën. On est venu pour revendiquer les 300 euros.
Et là, il y a autant de sifflets parce qu'en fait, on est devant l'entrée, c'est ça, des visiteurs?
Sortie, en véhicule, c'est l'entrée de sortie. Et là, ils ont fermé pour voir qu'on rentre à l'intérieur.
C'est l'exemple d'une administration sourde, elle n'est même pas capable de parler avec ses ouvriers. Elles mangent la bonne bouffe, ils ont la bonne paie. Tout ce qu'on réclame, un peu d'argent de plus pour survivre mieux. Ça fait plus qu'il dit meilleur qu'on est au siège central de PSA Peugeot Citroën. On est sous la pluie, on a faim, ils sont en train de manger, ils nous bloquent les portes. Ils parlent même pas avec nous, ils nous adressent même pas les paroles, on dirait des chiens. Ils sont même pas capables de négocier avec les ouvriers. C'est tellement honteux pour une telle direction. C'est tellement honteux. Nous, c'est qu'on réclame un peu d'argent pour survivre mieux. Elles mangent les meilleures bouffes. Ils sont dans les meilleures parisiennes ici, les meilleures, la Champs-Élysées. Ils nous prennent pour des esclaves. Ça s'appelle le manque de respect des ouvriers.
La force des travailleurs, c'est la grève dans l'histoire des slogans, des manifs et des luttes. Je ne sais pas quand ce slogan-là est arrivé. La force des travailleurs, c'est la grève. En tout cas, c'est des voix qui retentissent toujours, qui retentissaient au moins cette journée qu'on a voulu partager avec Agathe, cette auditrice qui nous avait envoyé un message dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, pour raconter cette grève chez PSA Peugeot Citroën à Aulnay-sous-Bois, où environ 10% des effectifs, 400 à 500 salariés, sont mis en grève. On est avec Agathe et le combat continue.
Si ils rentrent pas, on rentre pas.
On a juste un seul souci.
On va vous expliquer. Parce que c'est où la direction nous reçoit. Il y a aujourd'hui, il y a 70 salariés de l'IRE qui sont avec nous. On veut qu'il y ait un représentant. Si la direction générale ou locale ici, elle ne veut pas nous recevoir, on s'en va. Ça fait 5 semaines qu'on vient ici, il n'y a rien. Ah, maintenant, vous allez recevoir une personne.
On vous a dit, nous recevons une délégation composée de deux représentants par organisation syndicale représentative au niveau du site d'Olmet. Donc si vous voulez, sur la base de la délégation que vous avez composée, on est prêt à vous recevoir. La DRH du groupe. Deux représentants par organisation syndicale représentative sur le site d'Olmet. Nous sommes prêts à vous recevoir.
Vous refusez de recevoir nos camarades de l'IRE.
La délégation que vous nous avez composée, monsieur.
La délégation qu'on a composée, c'est avec des représentants de l'IRE. Non, non, vous l'a donné au début.
Rayé,
non, non,
monsieur, vous l'avez rayé.
Au revoir, monsieur.
On vous attend. Si vous voulez venir, on vous attend, monsieur.
C'est pas grave, c'est PSA qui perd. Ils ont perdu 12 000 voitures. Les voitures qu'ils fabriquent en ce moment sans siège, c'est une perte, une catastrophe. C'est eux qui le disent. C'est des millions et des millions de perdus. Apparemment, vous n'êtes pas pressé. Vous vous en foutez. Ça perd des millions.
Moi, j'ai perdu
1000 euros. J'ai perdu 1000 euros. Ils ont perdu des millions et des millions. Eh ben, on va continuer dans ce sens.
Allez-y, les camarades. Ils veulent pas nous donner les 300 euros.
Ils n'ont pas voulu accepter la délégation qu'on avait constituée, c'est-à-dire avec des représentants de chaque syndicat en grève sur l'usine, plus des grévistes qui ne sont pas forcément syndiqués, dont un intérimaire. Et puis surtout, les camarades de l'IRE qui sont venus avec nous, ils avaient aussi des choses à dire. Et ils n'ont pas voulu recevoir notre délégation, donc ça ne sert à rien d'aller les voir dans ces conditions. C'est le cinéma habituel des négociations. De toute façon, on ne s'attendait pas à ce qu'on ait un résultat aujourd'hui. À mon avis, là, quand même, on a réussi à motiver les gars de l'IRE, surtout. Pour eux, c'est nouveau tout ça, et venir avec nous, ça les encourage. Ça leur montre tout ce qu'on peut faire dans une grève, comment s'organiser. Ils discutent avec les autres, les copains de Citroën. On n'est pas prêt à se décourager.
On a marre de la misère.
Nous, on continue la grève et puis il n'y a pas de problème.
Et là, cette rue, est-ce que toi, tu la prends souvent, les Champs-Élysées? Est-ce que tu te balades?
Non, je viens jamais ici. C'est pas le Paris qui m'intéresse, il n'est pas là. C'est le Paris qui m'intéresse, c'est plus le Paris central, le Paris, les musées, les choses comme ça. C'est, oui, ça, mais bon, ici, la plus belle avenue du monde me laisse indifférente. J'aime mieux des vieux monuments ou le musée de Cluny ou des choses comme ça qui représentent quand même plus de choses pour moi au point de vue de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de France. Ça représente quand même une forme de contestation un peu forte, parce que c'est vrai qu'occuper l'avenue de la Grande Armée, c'est sûr que c'est un symbole quand même, c'est pas n'importe quelle rue. Et puis ça fait partie de l'expérience que se transmettent de génération en génération les gens qui luttent. Il y a un truc marrant que ma gamine m'a dit, c'était la deuxième semaine de grève. Le dimanche matin, j'étais à la maison, puisqu'on n'était pas à l'usine. Puis ma petite, elle me dit, ah bah alors le patron, il est mort, ça y est, t'es avec nous, t'es rentrée. Bon, elle a 4 ans, je ne sais pas comment dans sa tête elle voit ça, mais voilà, c'est à cause du patron que je ne suis pas à la maison. Voilà, alors on avait hésité à faire un tour de l'Arc de Triomphe, on avait bien envie de le faire. Et puis là, voilà, on ne pensait pas avoir le temps, mais finalement, il faut prendre le temps de faire des choses un peu symboliques. On fait le tour de l'Arc de Triomphe et c'est très bien. Il y a des choses surprenantes aussi qu'on fait dans cette grève, comme par exemple aller parler aux élus. Est-ce que dans la vie, on a la possibilité de parler aux élus? Non. Là aussi, c'est une petite victoire. Enfin, victoire avec des guillemets. Mais rencontrer des élus pour des ouvriers, c'est inhabituel, quoi. Les élus, c'est des gens qui se sont mis au-dessus de la société et qu'on rencontre jamais. Moi, l'image, c'est un peu ça que j'en ai. Même au niveau municipal, hein, c'est des gens qu'on rencontre pas. D'ailleurs, c'est pas normal. Soi-disant, on est en démocratie. On n'a jamais accès à eux. Là, justement, peut-être la force et le nombre les obligent à nous écouter, mais autrement.
Descendre dans la rue, c'est sortir de l'ordinaire. Et c'est ce qui se passe là dans cette journée que nous passons avec Agathe. C'est que bien sûr il y a la lutte, il y a l'espoir, il y a le conflit, des conflits qui durent finalement depuis très longtemps. Ça dure depuis combien de temps? Des siècles en fait. Mais bon, évidemment, depuis la révolution industrielle, c'est à peu près toujours la même chose, ce bras de fer entre le capital et le travail. On n'en sort pas, on n'en sortira pas, c'est pas la rue qui gouverne, mais presque.
Si tu rentres dans l'usine, faudra rentrer quand nous on rentre tous. Planque, et puis après tu verras, quand il y aura du monde, tu pourras peut-être leur sortir. Et d'accord. Si tu restes avec moi, je pense que tu seras pas trop emmerdé par les gars. Après, c'est les chefs.
Oh, touche pas, Trana. Oh, touche pas, touche pas. C'est vrai, regardez comment il fait là.
Vous voyez là?
Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Juste que je sache.
Vous êtes rentré illégalement, vous n'avez rien à faire à l'intérieur du site. On vous demande de sortir.
Est-ce que Citroën il est hors de la loi?
Hors de la loi, ça va péter aujourd'hui. Hors de la loi.
On te accompagne jusqu'à la porte.
Merci.
Baisse.
Hors de la
loi. Vous pourrez.
Je vous parle, je vous demande de sortir. Alors attendez, expliquez-moi, parce que moi je comprends pas la situation.
De sortir, vous êtes sur un territoire privé, vous n'êtes pas dans le public ici, donc on vous demande de sortir.
Si vous voulez rentrer,
il faut demander une accréditation. Vous voyez que le service de la communication porte une. C'est tout ce qu'on vous demande. On vous demande de sortir. Vous n'avez pas à être sur le site.
Qui me met dehors de cette usine? Au moins, présentez-vous.
Moi, je veux bien me présenter. Je suis Monsieur Gagné. Je travaille aux ressources humaines. On vous demande de sortir.
D'accord. Monsieur Gagné me demande de sortir donc de l'usine PSA dans laquelle on n'a pas le droit d'entrer.
Oui.
Pour suivre un groupe de grévistes qui, normalement, on a le droit de suivre en tant que grève.
Non. Vous êtes sur un endroit privé. Je vous l'ai déjà expliqué. Vous n'avez pas de carte de présence sur le site dans le même. Donc, je vous demande de sortir.
Derrière la grille donc de l'usine et moi de l'autre côté.
On va parler.
Ben voilà, tu t'es fait sortir de l'usine comme prévu. C'est la liberté de la presse à l'usine.
Et là, on se retrouve par chance, on s'est croisés sur la route.
Sur la route, alors que je rentre chez moi.
J'étais entourée par tous les salariés grévistes qui m'ont entourée pour me protéger de ceux qui me mettaient dehors.
Ouais, c'est sympa, j'ai trouvé ça sympa la réaction des copains grévistes. Là, on va rentrer chez moi, je vais pouvoir aller chercher mes gamines à l'école, c'est pas mal. Ben, la vie, c'est pas, ça se limite pas au travail. Même si on est passé aux 35 heures, c'est vrai que ça nous a libéré une heure par jour. Mais une heure par jour, finalement, c'est pas énorme. Ça nous permet de rentrer plus tôt chez nous, de voir nos gamins. J'apprécie, hein, bien sûr, je vais pas cracher dessus, mais c'est pas ça qui nous permet vraiment d'être... de faire des choses qui nous intéressent. J'aimerais bien faire partie d'une chorale ou quelque chose comme ça, mais c'est difficile.
Et on est arrivé?
Voilà, on est arrivé.
On n'a pas de course à faire, rien du tout.
Les courses, c'est le mardi.
D'accord.
Parce qu'il y a des réductions à Carrefour le mardi. C'est épouvantable, hein. Voilà comment on est obligé de vivre en fonction des gros manias de l'agroalimentaire et du commerce.
Je ferme. Salut,
tu veux m'emmener ?
Ah bah, c'est bon.
Bah, écoute, c'est bien.
Il y a
Pascal, Camille, tu commences par faire
des caprices.
Camille !
Ouais, bah,
va
faire ton caprice plus loin, Camille. Dans ta chambre, parfait. Et t'essayes de pas claquer la porte, s'il te plaît.
Voilà, plus chaud. Alors, vous êtes l'ami d'Agathe ?
Ouais.
Je suis en train de faire n'importe quoi.
Bah oui, c'est comme t'as fait ce matin que je me fasse.
Attends, parce que ça a commencé à chauffer.
Oh là là.
Oui, c'est plein déjà du café de ce matin. Donc
voilà,
on va
il va se replaindre du café de ce soir. Bah, je suis un peu fatiguée, hein. Excuse-moi.
Vous faites quoi ?
Moi, je suis prof. Prof de physique. Physique chimie.
Tu peux le dire que tu m'aimes quand même, non ? Tu veux pas le dire au micro ?
Non, bah non, non, mais...
Comment vous êtes connus tous les deux ?
Oh là là !
On est la génération 86.
Voilà, c'est ça. En 87, quoi, on se pose des questions, on rencontre des copains, on se demande ce qui se passe dans le monde, tout ça, puis voilà, puis après on rencontre du monde, et puis voilà, on s'est rencontrés comme ça.
Se retrouver, il y avait plein de trucs à faire en époque. Pas des réunions politiques, je dis pas, mais...
Les comités de grève de la fac...
Ça, ça fait 21 ans maintenant.
Ouais, ça fait longtemps.
Ça fait longtemps.
Hein. La grand-mère chat qui vient avec Alexandra pour manger avec vous. Nous, on va sortir avec Pascal.
Mais on est là, Camille. Écoute, tu sais bien qu'on est là.
Je reste avec vous.
Voilà, puis nous, on va y aller.
D'accord. Donc, je mets mes chaussures.
Voilà.
Faut vite s'éclipser.
Ouais, c'est chiant maintenant, en ce moment, on ne voit pas. Enfin, moi, elle me voit un peu, mais Agathe, c'est zéro. C'est pour ça que Camille, elle est dure comme ça. D'habitude, elle n'est pas comme ça.
Parce qu'elle ne voit pas trop sa maman qui est en vrai.
Bah, c'est pas qu'elle la voit pas trop. Elle rentre un petit peu plus tôt maintenant depuis 15 jours, mais au début, les 15 premiers jours, elle rentrait, il était 11h, elle était couchée, ils étaient couchés toute la nuit.
Allez,
allez, il fait froid, tu vas attraper ce froid.
Oui,
allez, arrête.
Au secours. Bon.
Bon, allons-y vite. Le théâtre Joli Môme qui joue un texte de Prévert qui s'appelle La Croix sur l'air. Et puis c'est un théâtre très sympa qui nous propose de faire un petit discours avant le spectacle pour récolter des fonds pour notre caisse de grève. Donc,
Appelez-moi votre prénom.
Oh, c'est Salah mon prénom. Gréviste à Citroën. C'est mon métier depuis un mois là. Ça paye pas beaucoup, mais je peux vous assurer que c'est vachement bien. On se marre beaucoup.
C'est un stage de formation, c'est un peu cher. 930€ le stage.
Toi tu dis ça parce que ta
moi,
copine est. Parce que ta copine est gréviste, c'est pour ça que tu fais la gueule.
Ouais,
et ta copine, elle est contente, j'ai l'impression.
Oui, mais elle est contente. Elle se marre bien toute la journée.
Puis toi tu gardes les mots. Mais ça change pour une fois, c'est bien.
Ça change. T'as grossi toi. Hein. C'est vrai que depuis que tu bosses à l'usine, tu grossis. Non, mais je déconne pas.
Oui, mais peut-être que j'ai grossi, mais là je fais l'exercice avec la grève. Alors que toi, ça fait longtemps, mon pote.
Moi,
ta dernière grève, c'était il y a 2 ans.
Est mon
c'était il y a 2 ans, la grève.
Attends, je m'occupe de mon tous les soirs.
Viens, ça tourne, hein, fais gaffe.
Viens,
hein.
viens voir ce que ça donne, tu vois, avec les gars. C'est du sport, mon gars.
Vous êtes tous les trois sur scène ?
Sur une caisse. Sur une caisse. Comme les ouvriers avant, ils faisaient sur une caisse, pareil. Au milieu de l'atelier, ça va être ça. Non, on va laisser Agathe. Elles sont bien, elles aiment bien Prévert. On va dire le poème à la fin. Voilà. Franchement, je ne suis pas allé au théâtre depuis. Je crois depuis. Si, j'ai vu une super pièce il n'y a pas longtemps, c'est pas des conneries. C'était à Paris, c'était une pièce écrite par un Anglais là, qui vit en France, je ne sais plus comment il s'appelle. Peter Brooks, voilà. Et c'était vachement bien. Moi, j'ai trouvé ça super émouvant. Ça, le problème, c'est que les pièces de théâtre, souvent, c'est pas toujours très abordable. Quoi. Bon, on parle du sujet, puis bon, on n'est pas trop habitué, on est plutôt génération McDonald's et télévision, mais quand vous quittez les chaînes de montage, vous êtes crevés. Plus tu fais les 2-8. Et puis le fait de bosser à l'usine, je veux dire, au niveau du cerveau, on n'est pas très émancipé. Hein, entre deux moteurs, entre deux voitures, Je peux vous dire que votre cerveau, il pense plus. Hein. Et alors, vous rentrez chez vous, je vous dis, vous reposez, vous mettez la télé, mais vous pensez pas forcément à vous cultiver. Donc, peut-être quand on travaillera moins, je pense, quand on aura plus de moyens, ouais, là, je pense qu'on peut faire un tas de choses au niveau de la culture. Ce serait pas mal, hein, ce serait bien pour nous. Allô, en fait, ce qu'il faudrait peut-être, c'est que pendant notre grève, il faudrait peut-être que les artistes ils viennent nous voir. Ils viennent, je crois qu'ils le faisaient à une certaine époque. Là, ça se fait plus parce que les artistes sont moins engagés. Donc venez à Citroën, venez vous battre avec nous, venez, on vous attend.
Voilà, ben c'est ce que faisait autrefois dans les années 30 le groupe Octobre, dans lequel Prévert intervenait, Jacques Prévert, et son frère d'ailleurs, Pierre Prévert aussi. Mais Jacques Prévert a écrit beaucoup de textes pour le groupe Octobre, qui intervenait de cette façon-là sur des tréteaux à la sortie des usines Citroën ou Renault, et jouait des pièces, des monologues, dont certains, aujourd'hui, de ces textes font partie des trésors de la poésie française dans les œuvres complètes de Jacques Prévert. Et tout ça a été repris par l'excellente troupe Jolie Môme, qui s'est inspirée du groupe Octobre. Et ben voilà, ainsi va s'achever en beauté la journée passée avec Agathe dans ce jour de grève.
C'est une grève qui a commencé spontanément comme ça sur nos conditions de travail, les salaires. Et donc ça a un peu explosé dans l'usine. On est 500 camarades en grève sur un effectif de 3500 ouvriers. Et on a réclamé une augmentation de salaire de 300 euros. Pour une fois, c'est une bagarre pour réclamer plus que ce qu'on a. Et puis un salaire minimum de 1500 euros à l'embauche. Donc je vais vous lire un petit poème de Prévert, j'espère que ça va vous plaire, moi j'aime beaucoup. Donc je vous lis le poème, je vous explique deux choses. La tour, c'est la tour Eiffel. Donc Citroën s'était payé la tour Eiffel pour faire sa publicité. Et puis autrement, il y a l'histoire de la bouteille de lait. Alors la bouteille de lait, c'est pour les gars qui travaillent à faire les pièces métalliques. Ils utilisent des acides, etc. Donc la bouteille de lait, ça leur permettait de limiter les dégâts pour la santé. Donc je vous lis le petit poème. Excusez-moi, mon papier est grand, mais voilà. À la porte des maisons closes, c'est une petite lueur qui luit. Mais sur Paris endormi, une grande lumière s'étale. Une grande lumière grimpe sur la tour, une lumière toute crue, c'est la lanterne du bordel capitaliste, avec le nom du taulier qui brille dans la nuit, Citroën, Citroën. C'est le nom d'un petit bonhomme, un petit homme avec des chiffres dans la tête, un petit homme avec un sale regard derrière son lorgnon, un petit homme qui ne connaît qu'une seule chanson, toujours la même, bénéfice net, millions, millions. Une chanson avec des chiffres qui tournent en rond. 500 voitures, 600 voitures par jour. Trottinette, caravane, expédition, auto-chenille, camion. Bénéfice net. Millions, millions. Citron, citron. Le voilà à Nice qui fait le beau sur la promenade des Anglais avec son petit veston clair. Beau temps aujourd'hui. Le voilà qui se promène, qui prend l'air. Il prend l'air des ouvriers. Il leur prend l'air, le temps, la vie. Et quand il y en a un qui crache ses poumons dans les ateliers, ses poumons abîmés par le sable et les acides, il lui refuse une bouteille de lait. Qu'est-ce que ça peut bien lui foutre une bouteille de lait? Il n'est pas laitier, il est Citroën. Il a son nom sur la tour, il a des colonels sous ses ordres, des colonels gratte-papier, garde-chiourme, espions, des journalistes qui mangent dans sa main, le préfet de police qui rampe sous son paillasson. Citron, citron, millions, millions. Et si le chiffre d'affaires vient à baisser, pour que malgré tout les bénéfices ne diminuent pas, il suffit d'augmenter la cadence et de baisser le salaire des ouvriers. Baisser les salaires. Mais ceux qu'on a trop longtemps tondus en caniche, ceux-là gardent encore une mâchoire de loup pour mordre, pour se défendre, pour attaquer, pour faire la grève. La grève. Vive la grève!
Ah. Jeunesse de Jacques Prévert et du groupe Octobre. Merci à tous et d'abord à Agathe. Merci aussi à Philippe Julien et aux salariés de PSA Aulnay-sous-Bois. C'était un reportage de Pascal Le Pascariello concernant l'enregistrement public de dimanche prochain à 20h avec Noam Chomsky à la Maison des Métallos à Paris. Vous pouvez tout savoir sur le site de Là-bas si j'y suis, là-bas.org, là-bas.org, un enregistrement qui aura pour thème un dialogue, disons, sur le syndicalisme en France. À la technique aujourd'hui, Loïc Frapsos et Thomas Eliès. Koy Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée d'Agnès Le Bot et Céline Rouzet. Attends vos messages au répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. Et puis je rappelle les séances spéciales de Chomsky et compagnie, les projections spéciales exceptionnelles de Chomsky et compagnie à l'occasion de la visite de Chomsky à Paris qui auront lieu à la fin de cette semaine. Je vous donne deux dates, 27 mai 1950, 19h50 à l'espace Saint-Michel à Paris, dans le 5e, et le 28 mai à 18h et à 21h, séance au cinéma L'Entrepôt à Paris. Les séances seront suivies de débats avec les réalisateurs de ce film, c'est-à-dire Olivier Azam et moi-même. Réclame.
Luc, Nat, vous êtes comment?
Prête.
Pareil.
Ok, on lance un nouveau message d'EDF Pro, mise en relation avec des partenaires. Luc, t'es bon?
Au top.
Top.
Quand on veut améliorer l'éclairage intérieur de son local et le rendre plus économe en énergie, on ne sait pas toujours vers qui se tourner. Alors EDF Pro vous conseille et vous propose une mise en relation avec des partenaires qualifiés pour réaliser vos travaux.
Et numéro?
Renseignez-vous au 0810 333 776. EDF, changez l'énergie ensemble.
Mention?
Prix d'un appel local, sauf surcoût imposé par certains opérateurs. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Ok, très précis, très EDF Pro.
Bonjour, c'est Miss Maf. Je viens vous rappeler, parce que c'est très important, que le 27 mai, c'est la journée nationale de dépistage anonyme et gratuit des cancers de la peau, organisée par le Syndicat National des Dermatologues. Il vous suffit d'appeler le 3113 pour connaître le centre de dépistage le plus proche de votre travail ou de votre domicile. Alors faites-le. Pour votre santé, la Maf vous remercie, et moi aussi.
C'est la Maf.
Appel gratuit depuis un poste fixe.
À demain, 15h, pour Là-bas si j'y suis. Les infos, Hélène Roussel. Salut.
Le départ à la retraite repoussé au-delà de 60 ans, une mesure idéologique. Commentaire signé Martine Aubry, la première secrétaire du PS, parle d'une injustice avec aucun effet à court terme. Pendant ce temps, le parti de la majorité, l'UMP, réuni à l'Assemblée nationale, s'est prononcé, lui sans surprise, pour l'allongement de la durée de cotisation, mais aussi pour une contribution des hauts revenus. L'Assemblée nationale, qui a observé tout à l'heure une minute de silence en l'honneur de la policière municipale tuée la semaine dernière dans la fusillade de Villiers-sur-Marne, en banlieue parisienne. Un suspect a été écroué hier soir, mais les 7 ou 8 autres membres du commando sont toujours recherchés. Les obsèques de la jeune femme auront lieu demain en présence de Nicolas Sarkozy. Pas de fusillade, mais traînée sur plusieurs mètres par le conducteur d'un quad. Cette policière municipale est toujours hospitalisée, blessée au cervical. Ça s'est passé hier soir en Moselle, près de Metz. Le conducteur de l'engin tout-terrain portait un casque. Il n'a pas pu être identifié. La police est à sa recherche. Le fils de Philippe Devilliers ira finalement devant les assises pour mineurs pour viol sur son frère. Le juge d'instruction de Versailles est allé contre le procureur qui avait requis un non-lieu en mars dernier. Guillaume Devilliers est soupçonné d'avoir violé son frère de 6 ans, son cadet, à plusieurs reprises entre janvier 95 et décembre 96. Et puis on l'a appris cet après-midi, le chanteur du groupe U2 a dû être hospitalisé en urgence à Munich, en Allemagne, opéré du dos suite à une paralysie partielle de la jambe. Que les fans se rassurent, tout s'est bien passé. Bono est même sorti de l'hôpital. En revanche, leur tournée prévue aux États-Unis est reportée à l'an prochain. C'est ce qu'indique le groupe sur son site internet. Le sport et le football, rien n'est définitif en ce qui concerne William Gallas, déclaration du sélectionneur des Bleus. Raymond Domenech, qui reste prudent quant à la blessure au mollet du défenseur, même si ses derniers entraînements sont plutôt rassurants. William Gallas jouera une partie du match amical demain face au Costa Rica. Quoi qu'il arrive, Raymond Domenech a encore 7 jours pour donner officiellement à la FIFA sa liste des 23 joueurs qui partiront en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde. Et puis du côté de Roland Garros, deux matchs pas si faciles que ça pour l'Américain Roddick comme pour la Russe Safina. Parmi les résultats de la journée chez les Français, élimination d'Alizé Cornet, qualification, c'est une première de Nicolas Mahut, victoire cette fois sans surprise de la Belge Justine Hénin, et puis on attend sur les rangs des tricolores tout à l'heure Jérémy Chardy, Marion Bartoli ou encore notre champion junior Gianni Mina.
J'ai entendu une chanson ce matin à la radio.
France Inter et France 4 présentent Arnaud Florent Didier, la reproduction.
Tu parles d'une fille à patron, quand je l'imagine, je te vois.
En concert actuellement et le 3 juillet à la salle Playel, le 16 juillet au Francofolie de La Rochelle. Retrouvez Arnaud Florent Didier dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter, partenaire des Vieilles Charrues en Bretagne, le rendez-vous de l'été des amoureux des festivals, les pieds dans l'herbe et la tête dans les étoiles avec plus de 90 concerts. Muse, Jamiroquai, Mika, NTM, Alain Souchon, Phoenix, Pony Pony Run Run, Jacques Dutronc, Indochine. Du 15 au 18 juillet, à retrouver dans les programmes de France Inter et sur franceinter.com.
Dans le prochain enregistrement du Pont des Artistes, Isabelle Dordain recevra R.
J'ai entendu une chanson ce matin à la radio.
Arnaud Florent Didier et John and Jane.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission demain à partir de 18h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. France Inter,
la différence.
16h04 sur France Inter. Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Hélène. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. La musique prend racine quelque part. En général, on est bien allemand, comme était le père Jean-Sébastien Bach, qui n'a jamais bougé de son pays. Son fils, que j'ai cité hier, Jean Chrétien, lui a bougé en Italie, et puis il est allé aussi en Angleterre. Bon, il y a quelquefois des départs forcés, ce qui est arrivé à certains juifs qui ont dû quitter leur petit village, les Shtetl, des petits villages de l'Europe de l'Est, pour arriver à New York, par exemple. Et le Sirba Octet nous donne quelques musiques, quelques écho de cette immigration qui s'est transformée aussi en immigration musicale. La musique s'est un petit peu appropriée les moyens de l'Amérique, mais elle se souvient quand même évidemment de ses racines. Voici par exemple « Mémoire ukrainienne ». traditionnel yiddish, mémoire ukrainienne, interprétée par le Sirba Octet. On a entendu le cymbalum, notamment les baguettes très agiles de Lucie Morard. Et puis les autres aussi, on les félicite, on les applaudit. Et il est évident que David Oistrakh, le grand violoniste né à Odessa, donc en Ukraine, aurait pu aussi peut-être faire partie d'ensembles populaires. Et puis là, il y a eu une voie plus traditionnelle, avec le conservatoire. Il est devenu un des maîtres du violon, et lui-même, et après, a enseigné à Moscou, au fameux conservatoire qui était l'orgueil de l'Union soviétique. David Oistrakh, bon, publie ses enregistrements plus ou moins anciens. On le vénère toujours, ce bon papa, ce personnage rond, en apparence si serein, alors qu'en fait, on sait qu'il était souvent extrêmement angoissé, ne serait-ce que par la situation politique de son pays. Mais enfin, bon, il ne l'a jamais montré. Puis il est toujours resté, il n'est pas parti, comme ces immigrés qui sont allés à New York. Voici un enregistrement tout à fait touchant et sympathique. Il date de 1957. Un extrait du premier mouvement du concerto pour violon de Piotr Ilitch Tchaïkovski par le grand Oistrakh.